pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Les jeunes sont à réprimer. Les jeunes sont à réprimer. Il faut rétablir l'ordre, etc. Une partie de la magistrature marche à fond là-dedans. C'est une justice couchée. On voit monter un climat de répression qui se planque derrière les lois contre les terroristes pour essayer d'interdire toute forme de manifestation. Bien sûr, les gouvernements qui se succèdent disent « nous sommes dans une démocratie, on a le droit d'expression, etc. » Par le vote, en 2005, les gens avaient voté contre leur Europe capitaliste et que c'est quand même passé. Hein. Ça veut dire que les voies légales d'expression du peuple sont piétinées. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une recrudescence de la répression aujourd'hui. D'abord, l'opinion, d'une manière générale, et pas seulement les jeunes adeptes de la techno, etc., manifestent de plus en plus bruyamment et de plus en plus fortement contre le système. N'oubliez pas les paysans, les gens qui travaillent, etc., plus les milliers d'ouvriers qui sont virés par des mesures boursières. C'est brutal, ça. Et donc, il y a une réaction, forcément, au niveau de la brutalité de ces mesures économiques, etc. Et la réponse du gouvernement, c'est la répression.
Police, milice organisée. Police, milice prête à tirer. Police, milice, tout est factice.
Et un phénomène inquiétant est en train de se développer.
TF1, 18 octobre 1994.
Des soirées musicales. Ces soirées s'appellent les soirées rêves.
Vous venez par le périph' extérieur, vous démerdez, vous venez par le périph' extérieur. Vous sortez porte de Passy, au feu, à droite, direction Hippodrome, première à gauche en suivant le lac, toujours tout droit, puis à l'Hippodrome, vous vous enfoncez dans la pince, porte de Boulogne. Ok, grosse soirée, là !
Dans Paris, faire une soirée comme ils l'ont fait dans un lieu classé, et en plus, le nombre de participants, c'était pas une dizaine, hein, je sais pas combien il y en avait, mais plusieurs centaines, voire quelques milliers, bon, c'était un exploit.
Quand les amateurs de musique techno veulent respecter la loi, eh bien cela ne va pas sans mal.
Les jeunes sont à réprimer. Il faut rétablir l'ordre. Il faut rétablir l'ordre. On voit monter un climat de répression pour essayer d'interdire toute forme de manifestation.
Salut tout le monde, bienvenue à vous dans cette émission qui parle d'histoire et de politique avec les copains profs d'histoire géo. Salut Daniel.
Salut à vous.
Salut André.
Salut à tous.
Bonjour Muriel.
Bonjour.
Et aujourd'hui, c'est une chouette rencontre qui a lieu à cette terrasse de café, puisque nos deux bolcheviks de service font aujourd'hui la rencontre de Mamat. Bonjour Mamat.
Bonjour.
Alors Mamat, pas du tout représentant d'une quelconque organisation syndicale, pas prof d'histoire géo non plus, enfin pas à ma connaissance.
Je pense pas non plus.
Plutôt une voix parmi d'autres dans ce qu'on appelle le mouvement des free parties.
Tout à fait. Et dans le mouvement des free parties et les autres luttes sociales également, que ce soit pour les sans-papiers, pour les réformes que le gouvernement nous pond tous les jours.
Il va être donc question de répression de mouvements sociaux, de répression de l'expression publique sur la place publique, et tout ça sur fond de techno. Mamat, comment tu te présentes ?
Mamat, un mec en camion qui fait partie du mouvement des free parties, qui s'implique dans les mouvements sociaux. Puis voilà, à peu près tout.
Le mouvement des free parties, c'est quoi ?
Alors les free parties, c'est un mouvement d'événements libres et autogérés, on pratique la culture de la musique techno, répandue à travers le monde entier, qui défend des zones autogérées, et d'expression libre et de gratuité. Et du coup, les États nous répriment fortement. Ils se servent de tout, de n'importe quel prétexte pour nous mettre en procès. Des procès, on en a tout le temps, quoi.
Comment tu vis à l'année ? T'as un chez-toi fixe ?
Non, je suis en camion, justement, à travers justement toute la France, et puis les pays limitrophes à la France. Et en fonction des événements et des petits boulots qu'on trouve à droite à gauche. Donc du coup, je travaille essentiellement en restauration et dans l'agriculture. Et puis on fait des événements un peu partout, que ce soit vers Paris ou dans le sud de la France ou ici. On organise des free parties un peu partout.
Pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui voilà, à cette table de café, on va parler de quoi ?
Parce que justement, je passe en procès le 27 avril pour avoir soi-disant bloqué les voies du tramway de la ville de Tours pendant les manifs syndicales. Celle du 17 mai contre la loi travail, donc une manif déclarée en préfecture. Et à la fin de la manif, avec les différents camions syndicaux, on a décidé de faire des prises de parole, de mettre un peu de musique et compagnie. Et l'État a décidé de me poursuivre pour avoir bloqué les voies du tramway pendant 3 heures. Enfin, c'est ce qu'ils disent du moins.
Ce 17 mai, donc tu étais là-bas en tant que toi-même conducteur de ton véhicule, ou est-ce que tu étais sous l'égide, si j'ose dire, de Sud Solidaire ou de Sud Étudiant ?
Alors nous, on avait été voir les étudiants début mai pour leur proposer un camion. Avec Sono, mon collectif et moi-même. Donc en leur disant qu'on leur prêtait du matériel. Mon collectif s'appelle Résistance Centre, c'est un collectif de son système justement. Et on leur avait dit que suite à ce qu'ils avaient eu une grenade dans les pattes des encerclements suite à un rassemblement à Gangorès. Et du coup, nous, on se bat contre la répression de toute forme et contre les violences policières, surtout dans notre milieu qui sont, où c'est très fréquent. Et du coup, on avait dit, bah, nous, on va soutenir la jeunesse et on va leur filer un coup de main. Et donc, du coup, on va leur mettre à disposition un camion, une sono. C'est comme ça qu'on est rentré dans le mouvement. On n'est pas à Sud, on n'appartient pas à Sud, on est autonome et autogéré. Par contre, on est capable de travailler avec les différentes organisations syndicales et politiques.
Je connais pas bien le milieu justement des free parties et tout ça, mais j'aurais eu tendance à penser que c'était plutôt un milieu, disons, hédoniste. Voilà, on danse, on fait du bruit, on s'en fout un peu de ce qu'il y a autour de nous. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut être tougher et concerné socialement et politiquement.
Mais une bonne partie des toughers sont, entre guillemets, conscientisés, même si j'aime pas ce mot-là, dans le sens où on essaye de créer des espaces autogérés. Alors on n'a pas le même mode d'action que les anarchistes ou les autonomes, les black blocs, compagnie. Pas la même façon d'être en manif, on n'a pas la même façon de se réunir ou de créer des événements, ou de gérer avec l'État, avec les médias, avec tout ça. Mais oui, on a une implication dans la société, dans le sens où on défend l'accès à la culture libre, le droit à la fête, le droit au rassemblement, sans avoir besoin de faire de déclarations préalables. On veut récupérer l'espace public, parce que maintenant tout attroupement est interdit. On veut également arrêter la commercialisation de l'art, de tout ce qui se passe sur cette planète, où tout doit être vendu, marchandisé et mettre un prix dessus. On est contre le fait qu'il puisse y avoir des frontières et que notre mouvement, justement, n'a pas de frontières et qu'on peut être n'importe où. Par exemple, il y a quelques années, on était un Technival au Maroc, on a fait des Technival un peu partout en Europe, on a fait des free parties un peu partout. Par exemple, le 17 mars, on a organisé une manif. On avait 7 villes en France qui étaient dans la rue, on avait des manifs à Montréal, à Dresde, à Berlin, à Warzazat. Donc du coup, notre mouvement est vraiment internationaliste, quoi.
Moi, j'ai toujours entendu dire « Ah, la techno, c'est apolitique, la techno, c'est juste pour faire la fête, la techno, les musiques électroniques, c'est insouciant, et c'est surtout pas sociétal, c'est surtout pas politique. » Et là, d'un seul coup, on se rend compte que elle peut être un étendard, un symbole d'un mode de vie, un mode de vie itinérant, un mode de vie affranchi de la sédentarité, du travail.
Alors, elle se revendique apolitique, mais elle n'est pas dans le même sens apolitique qu'on l'entend habituellement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas désintéressée, c'est juste qu'elle ne veut appartenir à aucune banderole ni couleur quelle qu'elle soit. Ça veut dire qu'on se fait décrier depuis des années par les différents mouvements qui existent, de l'extrême gauche à l'extrême droite, qu'on commence seulement à avoir des liens qui commencent à s'ouvrir, comme à la ZAD, où il y a eu des free parties à la ZAD et compagnie en concertation.
Sur Notre-Dame-des-Landes.
Tout à fait. Mais ce mouvement se revendique apolitique dans le sens où il ne participera jamais à cette politique institutionnelle, et que du coup, elle prône autre chose, elle prône la liberté, et que la liberté ne passe pas par les urnes, la liberté ne passe pas par ces débats qui durent 3 heures, qui sont regardés par les téléspectateurs, où on te propose une soupe. Concrètement, c'est juste une mascarade, encore une fois de plus, qui recommence tous les 5 ans. De toute façon, on sait très bien qu'ils ne nous accepteront jamais. Donc on ne se sera jamais faire. Et on va pas les rejoindre, on va pas les adhérer en se disant « ça va, ils vont être cool avec nous ». Ils ne nous accepteront jamais. Et la preuve, que ce soit Sarkozy, Hollande ou Tartampion, ils nous ont toujours agressés, attaqués, tous les ministères et toutes les mairies en conséquence. Et quand une mairie nous accepte, c'est pas une couleur politique, c'est la petite mairie du fin fond d'un village qui dit « bah moi j'aime bien et c'est plus des individus que la bannière politique qui parle ». Donc tous les gros partis et tous les partis politiques qui existent, nous déclarons toujours la guerre, parce qu'on s'oppose complètement à leur logique institutionnelle et leur logique où il faut tout déclarer, tout sécuritaire, où il faut que la société soit carrée, faut tout annihiler, tout protéger absolument et aseptiser. Et ça, on ne pourra jamais être en accord avec eux. À part s'ils font un pas vers nous, bien entendu, et qu'ils nous disent « maintenant vous êtes libres, vous pouvez vivre comme vous voulez, faire la fête avec le respect qui soit, mais où vous voulez, complètement. » Mais ils ne le feront jamais.
Chair à canon et 2016, chair à patron.
Medef partout, justice nulle part. Medef partout, justice nulle part.
Et regardez actuellement vers quoi ils veulent nous emmener. La loi Macron, déjà ça nous a fait chier. Mais alors en plus, cette loi-là, mais où on va? Où on va? Au bout d'un moment, faut aussi qu'on se défende.
On n'en veut pas.
Je reprends cette manif du 17 mai, hein, contre ce qu'on a appelé la loi El Khomri, printemps social très chaud de 2016 qu'on a eu. Concrètement, il y a plusieurs camions d'organisations syndicales. Il y avait Sud Solidaire, il y avait CGT, il y avait... voilà. Donc ton camion avec d'autres participe à ce truc-là?
Tout à fait, on était en tête de manif. On avait mis à disposition des étudiants, des lycéens, un camion avec de la sono, des platines et un micro, pour qu'ils puissent dire leur message aussi, et puis pour ne pas être récupéré par aucun mouvement syndical, et que ce soit la jeunesse qui soit en tête. Et du coup, c'est quelque chose d'assez festif, assez joyeux, un cortège de tête plutôt sympa, quoi, par rapport aux autres villes de France où on avait réussi à faire un truc assez coloré, on va dire.
Et ce 17 mai, donc, cette prise de parole avec ce bivouac de camions, ça a lieu où précisément à Tours?
Sur la place Anatole France, donc à la fin de la manif, hein, en voie dispersion. Et du coup, on occupait les abords de la place. Donc certains étaient sur les trottoirs, moi j'étais sur la route parce que j'avais mis un poids lourd, donc on ne pouvait pas monter sur les trottoirs. Et on s'était répartis sur toute la place, aux quatre angles de la place. Et donc du coup, tout le monde balançait ses messages, ses discours et sa musique.
André.
C'était après la dispersion, les autres étaient partis, les autres camions?
On a commencé ensemble, on est partis les derniers certes, mais on avait commencé ensemble et puis au bout d'un moment, les différents camions sont partis, nous on est restés, la police nous a demandé de partir, on est partis. Donc ça a duré à peu près 3 heures, entre 14h et 17h.
Donc c'était pas improvisé une free party ou une rave party aux abords du pont de Pierre, c'était pour permettre une prise de parole, parce que ça se fait à la fin des manifestations, voilà, on fait une conclusion, un bilan, on se donne des mots d'ordre, on se donne des rendez-vous pour de futurs AG, puis on s'exprime, et c'était à ça que servait ton matériel, ton camion et la sono.
Bah tout à fait, si on avait fait une free party, on l'aurait pas fait comme ça, on aurait vraiment ramené beaucoup d'enceintes, et on serait pas laissé virer. Là on a été en mode gentil, on a permis aux étudiants et à tous ceux qui veulent parler de pouvoir parler, et pouvoir dire librement ce qu'ils ont envie de dire par rapport à leur travail, par rapport à leurs expériences et par rapport à leur volonté sur le mouvement.
Est-ce que c'est avant la dispersion complète qu'on vous impute le blocage?
D'après la police, en tout cas, la dispersion était faite pour 14h. Donc c'est ça qui nous reproche. Après, ce qui nous reproche, c'est d'avoir bloqué des voies du tramway. Parce qu'on soit sur la voie publique, je veux bien. On a payé une amende de 135 euros d'amende pour stationnement gênant. On l'a payé, on assume, pas de problème. C'est le début de la répression, mais bon, soit. Par contre, ce qui nous reproche, c'est d'être sur les voies du tramway. Or, on n'y était pas.
Est-ce que c'est la société de tramway qui vous fait le procès?
Bah complètement, c'est Fil Bleu, oui. Mais du coup, on peut demander la question, qui c'est qui a impulsé ce procès? Parce que peut-être, certes, c'est Fil Bleu qui porte plainte, mais qui c'est qui lui a demandé? Parce que si on n'est pas sur les voies du tramway, ça pose souci quand même.
Mais il y a des photos ou des vidéos qui attestent que le camion n'était pas sur les voies du tramway?
Alors nous, on a des photos pour montrer qu'on n'était pas sur les voies du tramway, ça c'est sûr. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le tramway, ça a amené plein de caméras vidéosurveillance qui surveillent tout le parcours. Et que du coup, s'ils avaient vraiment envie de vouloir savoir si on était dessus, il suffisait qu'ils regardent la vidéosurveillance. Et alors, ils l'ont pas fait apparemment. Est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que c'est un oubli de leur part? Est-ce que... Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous, on a des photos pour prouver qu'on n'était pas dessus.
Je reviens sur l'organisation de la manifestation du 17 mai 2016. Donc les autres camions, vous êtes les derniers finalement à partir. Voilà, la police, au bout d'un moment, vous demande de partir. Ce que vous faites, vers quelle heure?
17h06, ils ont noté sur le PV. Le commandant est venu nous voir, il nous a fait « Vous partez, on saisit le camion ». On a fait « Bah non, on veut pas d'affrontement, on veut pas tout ça, donc on part ». Et voilà.
Et après le 17 mai, comment est-ce que tu apprends qu'il y a une suite?
Par la Nouvelle République, le journal local.
Génial.
C'est même pas la police qui m'informe, c'est la Nouvelle République qui était au courant avant même la police, d'après la police elle-même.
Quel jour tu apprends qu'il va y avoir une suite à cette histoire dans la Nouvelle République?
Je crois que c'était 2-3 jours après. Mais du coup, on apprend qu'on va passer en procès pour avoir dégradé les voies du tram. Ce qui est un peu surprenant, parce que moi, bon, certes, j'ai un poids lourd, mais des poids lourds qui passent sur les voies du tramway pour faire des livraisons dans le tour, il y en a tout le temps. Pas possible.
Votre camion, il faisait quel poids pour dégrader à ce point-là les voies du tramway?
12 tonnes. Je peux monter jusqu'à 12 tonnes, je ne suis pas, hein, il doit être à 10 tonnes ou 11 tonnes, mais il fait 12 tonnes, ouais. Mais bon, il y a des 44 tonnes qui passent tous les jours dessus. Arrivé au commissariat pour l'audition, j'apprends que c'est pour avoir bloqué les voies du tramway, ce qui n'est plus la même chose. Puis le CPE, ils ont renforcé les lois et le durcissement des peines pour tous ceux qui bloquent les voies de chemin de fer et les voies de transport terrestre.
Donc tu apprends par le journal, 3 jours après environ, que quoi?
Qu'on va être convoqué par la police, qu'il y a des suites et qu'on va passer en procès pour avoir dégradé les voies du tramway.
Il faut lire le journal plus souvent en fait, hein. Il y a des choses qui nous concernent dedans.
Ah bah, on apprend tout là-dedans. La Nouvelle République, c'est pratique, hein. Malgré que c'est la voix de l'État.
Donc c'était pas une information erronée, finalement ce que t'as découvert dans le journal, c'est avéré?
Bah oui et non, oui, j'ai bien été convoqué, mais après pas pour les mêmes motifs. J'ai pas dégradé, du coup je suis pas condamné pour dégradation. Enfin je suis mis en examen pour blocage et tout.
C'était blocage plutôt que dégradation. Bah il faut cerner l'affaire quoi.
Pour les dégradations ça paraissait un peu dur de pouvoir les légitimer s'il y en a pas quoi. Je pense que je pèse moins lourd qu'un tramway et qu'un tramway il dégrade pas quand il passe.
Tu dois passer en jugement.
Le 27 avril ouais.
Vous êtes les seuls à être inquiétés. Donc si j'ai bien compris, les autres ont bloqué le tram.
Personne n'a bloqué les voies du tramway, parce qu'on était vraiment répartis sur les abords de la place et du coup on n'a pas bloqué les voies du tramway. Ça c'est un mensonge de l'État encore une fois. Mais oui, je suis le seul à être poursuivi, en effet. Mais pour bloquer, il faut être sur les voies.
Hein. La seule personne, pas des potes qui seraient avec toi?
Je suis la seule personne.
Au titre que tu es responsable de ton mouvement ou...
Propriétaire du camion.
Propriétaire du camion, oui. Après, je sais qu'ils m'aiment beaucoup, la police, et, par rapport au mouvement des free parties, justement. On venait de participer à un technival illégal contre la répression, qui cherchait des responsables et à les incriminer. Ils n'ont pas réussi avec ce technival-là, donc ils nous ont trouvé tous les prétextes possibles et inimaginables. Et l'intégralité des personnes qui ont impulsé ce technival ont eu des emmerdes par derrière, qui n'ont rien à voir avec le technival en lui-même.
Est-ce que ce qui ne te rend pas plus vulnérable, parce qu'André parlait de votre mouvement, etc., mais en fait, il n'y a pas de bannière, il n'y a pas de fanion, il n'y a pas de carte d'adhérent au mouvement des Free Parties. C'est-à-dire que toi, tu n'es ni Sud, ni la CGT, ni tout ça. Tu es toi-même, en fait.
Alors, depuis cette année, parce que j'ai repris les études cette année, même si je n'ai pas trop le temps d'y aller, il faut dire la vérité. Mais j'ai repris les études cette année, et du coup, je me suis syndiqué à Sud étudiant. L'année dernière, oui, il n'y avait aucune banderole syndicale, que je n'appartiens qu'à un parti politique. Je considère que la politique qui prône, elle ne me convient pas actuellement. Et que les gens comme nous, donc qui vont en camion, qui vivent en marge, que ce soit tous les partis politiques sont toujours contre nous et font toujours des lois contre nous. Que ce soit le PS, l'UMP, le FN ou l'extrême gauche. Et qu'à chaque fois, c'est nous qui trinquons.
Revenons-en à ce passage au tribunal qui t'attend donc le 27 avril au tribunal de Tours. T'as un avocat ?
Alors j'ai un avocat, oui. Après, j'y vais avec tout l'appui de mon collectif.
L'avocat, tu l'as trouvé comment ?
Bah, c'est quoi qu'on connaît depuis longtemps.
Ce n'est pas un avocat commis d'office.
Pas du tout, non. C'est un avocat qui on a déjà eu l'habitude de travailler, qu'on continuera à travailler avec. Parce que, comme je disais, justement, on est durement réprimé, donc on est obligé d'être soutenu.
Donc, c'est un avocat qui aime bien les toughers et les free parties.
Exactement. Mais on en a plusieurs en France qui nous soutiennent. On en a de plus en plus. Ils ont du boulot avec nous. Et du coup, procès, on appelle à une manifestation le 27 avril devant le palais de justice à Tours à 8h30, parce que je passe en procès à 9h. Et que toute initiative est bonne à prendre et que chacun est libre de venir comme il veut et de faire ce qui lui semble bon d'être fait.
En envisageant la pire des hypothèses, qu'est-ce que tu risques ?
Alors la peine maximale c'est 6 500 € d'amende, 6 mois de prison, 6 mois de retrait de permis et un dommage à intérêt de 1 650 € pour fil bleu pour le fait qu'ils n'avaient pas pu faire rouler le tramway. La peine maximum. Bon, ils iront pas jusqu'à là, hein. Je veux dire, c'est le maximum, ils le font jamais, mais on verra bien. Hein. De toute façon, ce ne sera pas à faire, quoi qu'il se passe, on fera appel. Parce qu'on refuse d'accepter la répression quelle qu'elle soit, et dans tous les cas on fera appel.
C'est pas l'accusé de prouver son innocence, c'est au plaignant, via le tribunal, de prouver la culpabilité. Et s'il y a des éléments de vidéo ou de photos qui montrent à l'évidence que ton camion n'était pas sur les voies du tramway, pourquoi ne pas envisager une relaxe, comme on dit ?
Bah, durant le mouvement de travail et durant divers mouvements sociaux en France, on a vu que... ça se passait pas comme ça. Ouais. Et que les procès politiques ont bel et bien lieu en France. Quand Sarkozy dénonçait les 600 prisonniers de Cuba, le CPE, c'était bien plus. Alors certes, c'est des peines moins lourdes, il n'y a pas la peine de mort, il n'y a pas tout ça. Il faut replacer dans le contexte. Hein. Je veux dire, c'est 6 mois de prison, c'est des amendes. C'est... Mais les procès politiques ont lieu en France. Je crois que depuis la loi travail, on en a plus de 2000 actuellement. C'est le chiffre qu'a donné Paris Lutte Info. On a plus de 2000 procès complètement arbitraires. Et, c'est comme la voiture de flic a cramé à Paris lors d'une manifestation avec un fumigène là. Bon bah il y a un mec qui est en taule qui passe en procès bientôt, il est en taule depuis ce temps-là, il n'y a aucune preuve, aucun élément dans le dossier. Et pourtant il l'incrimine quand même et on sait très bien que la justice ferme les yeux et qu'elle est une arme et un bras droit de l'État pour permettre justement le maintien de la paix sociale et le maintien de l'ordre social établi.
Alors à ton avis, tu dis maintenir l'ordre social, etc. Par quels moyens ? L'intimidation, la dissuasion, c'est ça ?
Par exemple, moi je vois là, les deux amis qui sont passés en procès pour avoir organisé une free party et c'était un haut lieu de graffes depuis une vingtaine d'années. Donc des graffes, il y en avait partout. Donc ils leur ont fait payer 2 x 95 000 € d'amende pour l'intégralité des graffes qui auraient été faits pendant la soirée, alors que tout le monde sait qu'ils étaient là depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il y avait des graffeurs qui venaient. On sait très bien que c'est un moyen de nous arrêter. Leur répression, elle ne nous arrêtera pas. On continuera, ils peuvent mettre la tôle, ils peuvent mettre
donc
ce qu'ils
c'est
veulent.
Ça, c'est intimidation, dissuasion.
Ouais, c'est ça, et puis c'est aussi une histoire de bloquer. Une fois qu'on en est à 80 000 € d'amende ou 95 000 € d'amende, bon, bah, il y a un moment, on ne peut plus vivre. Je veux dire, mes potes, ils n'ont plus un camion à eux, ils n'ont plus une baraque à eux, ils n'ont plus rien à eux, parce que sinon, ils sont saisis directement. Et du coup, c'est un moyen de bloquer les vies des gens, et de les bloquer complètement, et de les détruire complètement. C'est une volonté de détruire l'opposition, c'est une volonté de casser tout ce qui peut déranger, tout ce qui sort du moule. C'est encore une fois, ils servent de la justice et de la police pour empêcher toute contestation et tout mouvement d'opposition qu'ils ne contrôlent plus.
Tu disais tout à l'heure les lois faites par l'UMP, le PS, le Front National et l'extrême gauche. Le Front National et l'extrême gauche n'ont pas eu le loisir de faire de loi. Hein.
Si, entre 40 et 44, l'extrême droite a pu, non. Mais...
ils n'ont pas eu l'occasion de faire de loi, c'est vrai. Mais par contre, par rapport à l'extrême droite, on voit les communiqués qu'a fait par rapport à la Free Party, on voit par rapport aux mairies FN... comment ils se comportent avec notre mouvement, on le voit. Et par rapport à l'extrême gauche, on voit bien qu'on n'a aucun soutien ni appui politique. Alors certes, ils n'ont pas eu l'occasion de faire les lois, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ils ont eu l'occasion de nous soutenir.
Sur l'extrême gauche, quelles sont les raisons, de ton point de vue, qui fait qu'ils ne vous soutiennent pas ?
On le rappelle, hein, Mamat, avec ton camion, tu n'étais pas sous une banderole syndicale, etc. Comment est-ce que les autres mouvements syndicats, je sais pas, je pense à Sud Solidaire, à la CGT, à FO, etc., se positionnent vis-à-vis de ton histoire ? Est-ce qu'il y a du soutien ou est-ce que les gens regardent un peu ailleurs ? Parce qu'après tout, vous étiez, entre guillemets, main dans la main, dans la même lutte.
Alors par rapport au procès, à ce procès-là, alors oui, on a un soutien total de Solidaire. Ça c'est vrai, je veux dire, par exemple, ils ont fait une table de bouffe pour récupérer un peu d'argent pour le procès à la fac. Il y a Solidaire 37 qui nous soutient par des témoignages et compagnie. Les autres syndicats, la CGT, je pense qu'ils seront aussi là devant le tribunal. FO, je pense qu'ils vont aussi appeler. Donc par rapport au mouvement de la travail, ils nous soutiennent comme militants du mouvement de la travail. Après, par exemple, nous, on avait voulu organiser un concert dans la Camusière, on n'a jamais eu de réponse. Parce que des sous, il va en falloir. 6 500 € à sortir, plus les frais d'avocat, plus les frais de justice, plus les dommages à intérêt, il va falloir en sortir. Et donc, par exemple, ce sera un extrêmement beau geste de la part des syndicats de nous prêter leur maison. Et par rapport au mouvement de la Free Party, on n'est pas vu comme un mouvement politique, mais comme un mouvement festif et d'arraché. Et du coup, ils ne voient pas la convergence qu'il peut y avoir. Or, la répression, on la subit tous de la même manière. La répression, que ce soit les zadistes, que ce soit le mouvement des sans-papiers, le mouvement de la travail ou notre mouvement à nous, on est tous réprimés et criminalisés par l'État et qu'on passe pour des dangereux terroristes, qu'on est tous fichés, qu'on est suivis. Et du coup, il y a un moment, si on s'unit pas, personne n'y arrivera.
Est-ce que tu sens de manière un peu entre les lignes que de la part de certains mouvements syndicaux ou politiques, finalement, on vous reproche d'être des électrons libres, voilà, des gens un petit peu insouciants qui s'intéresseraient à des choses légères comme la culture, alors que l'emploi, c'est tellement plus grave comme sujet?
Je sais pas, ça vous, j'ai pas d'éléments de réponse pour ça. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas la même façon de lutter, ce qui dérange beaucoup. Nous, par exemple, quand on fait une manif, comme on a toute l'opinion publique à dos, qu'on a l'intégralité des médias qui s'en foutent et qu'on a tous les ministères sur notre dos, quand on fait une manifestation, on essaie de faire en sorte qu'elle soit colorée, sympa et festive pour non pas dire à l'État, regarde, on est là, on va créer un rapport de force avec toi, mais pour dire à la population, écoutez, on existe, on est peut-être des gens qui ont la fête au fond des bois, mais on n'est pas méchants parce qu'on a besoin d'un soutien de la population. On est complètement cloisonnés dans nos bois et on est complètement décriés par tout le monde et personne ne voit ce qui se passe réellement. Et donc du coup, on n'a pas la même stratégie que par rapport à des mouvements tels que le travail ou des mouvements où on peut se permettre de rentrer dans l'art ou compagnie. Nous, c'est pas du tout notre politique.
Dans les bois
Plus de 90% des soirées, oui, sont dans la campagne, parce que premièrement, ça embête un minimum de gens, parce que c'est l'endroit le plus facile pour trouver des terrains, parce que c'est aussi l'endroit où la police patrouille le moins, et donc du coup, c'est facile pour nous. Des champs en jachère, il y en a plein, qu'on peut les trouver. Après, il y a quelques free parties qui sont dans les zones industrielles ou dans les squats, mais c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus dans les grandes villes comme Marseille, Lyon ou Paris, quoi, ou Toulouse.
Le son, c'est la vie. C'est pas les staffettes présentes à la sortie. Ils décourageront mes ordres, ils vont organiser ces deux grosses têtes en train de me porter. Depuis quelque temps, j'ai entrepris de vivre pour l'évolution de ce mouvement que chaque jour tu vas. Empiler ces caissons, c'est ma vie, c'est mon hobby. C'est pas tes amendes ou des menaces de saisie qui décourageront les envies de ce petit peuple qui chaque jour s'agrandit. C'est pas tes amendes ou des menaces de saisie qui décourageront les envies de ce petit peuple qui chaque jour s'agrandit. C'est pas tes amendes ou des menaces de saisie qui décourageront les envies de ce petit peuple qui chaque jour s'agrandit. Pour l'évolution de ce mouvement, l'ennemi des rêves est là. Pour l'évolution de ce mouvement, et que tu le veuilles ou non, la rêve est là.
C'est une chouette rencontre qui a lieu aujourd'hui dans cette émission et autour de cette table de café avec Mamat qui vient de vous expliquer son histoire. Il passe en procès à Tours le 27 avril, rendez-vous dès 8h30 du matin devant le palais de justice à Tours. Et puis autour de cette table avec Mamat, également André et Daniel, nos copains profs d'histoire géo. Et c'est une jolie rencontre, tant culturelle que générationnelle que d'horizon. Et
vieux, hein ?
Je faisais surtout référence à tes goûts musicaux qui sont pas forcément dans la techno.
Effectivement, et je les assume pleinement. Mozart me plaît beaucoup, Berlioz. Bien sûr, et quelques autres, hein. Plein de leurs potes aussi, parce qu'ils ont des potes, eux aussi.
Quant à notre ami André, lui, c'est pareil.
Je suis très éclectique, j'adore la chanson, j'adore la variété, de tout pays d'ailleurs. Hein. Faut qu'il y ait quand même un peu de musique, un minimum, hein. Il ne peut pas y avoir que du rythme. Hein. Faut qu'il y ait un petit peu de musique et des paroles. Et les paroles, c'est très important pour moi. Voilà, il faut qu'elles soient audibles, c'est ça le problème. Dans la musique de Jones, j'essaye toujours d'écouter, moi, parce que tout m'intéresse. Mais merde, qu'est-ce qu'il dit? Faut qu'il y ait quand même un peu de musique, un minimum, hein. Faut qu'il y ait un petit peu de musique et des paroles. Les paroles, c'est très important pour moi. Voilà, c'est ma seule difficulté. Sinon, non, moi, c'est aucune prévention, d'aucune sorte.
Tu crois contrôler le son, mais c'est le son qui te contrôle. Crois contrôler le son, mais c'est le son qui te contrôle.
Ah, c'est pas grave, j'ai entendu, moi.
revenir sur l'histoire de Mamat et donc de cette... faut bien appeler les choses par leur nom. Il est bien question de répression syndicale, de répression policière.
Ça semble assez clair, oui.
Je me disais que les historiens que vous êtes seront forcément inspirés par cette histoire. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler et de dire beaucoup de mal, d'ailleurs, des gens qui se prétendent socialistes quand ils sont au pouvoir. Hein. Bon, on ne parlera par exemple que de la répression sanglante et sauvage lors de la grève de 1947, par exemple, hein, des mineurs, où ils y sont allés quand même à balles réelles pour mater ces mineurs qui, sous l'occupation, c'était les mêmes, hein, qui avaient fait de la résistance face aux nazis et qui avaient eu l'outrecuidance de réclamer une augmentation de salaire en 1947. En guise de réponse, le gouvernement socialiste de l'époque et le ministre de l'Intérieur, qui était Jules Moc, avaient envoyé les chars et les soldats tirer à balles réelles sur ces gens.
Climat de trouble, c'est l'atmosphère de cette semaine. Dans les mines du Nord, où l'effervescence continue, les compagnies de sécurité ont dû intervenir pour libérer les puits des piquets laissés par les grévistes pour empêcher tout travail. Mais en d'autres endroits, l'épreuve a pris un caractère nettement dramatique.
Comme Mamat le rappelait à l'instant, évidemment, on n'est pas dans un contexte aussi dramatique. Encore que pour lui, c'est pas drôle, parce qu'il est quand même question de milliers d'euros que tu as forcément, Mamat, hein, parce que ça se voit pas à la radio, mais je veux dire, t'es sapé comme un prince, t'as sur toi au moins 10 000 RMI, quoi, en vêtements.
Ah oui, on me semble un fillon.
Tout ça pour parler du sweat à capuche plein de taches.
Qui te les a offerts ?
Oh bah, c'est mes financeurs privés, c'est pour ma future campagne.
C'est ton avocat libanais. Ah non, on n'est pas dans le même monde, on ne parle pas des mêmes.
Tu n'as pas d'avocat libanais ? Mais à quoi tu penses ?
Par contre, il a un Solex, je suis sûr, attaché derrière le camion. Et comme chacun sait, quand tu as un Solex à 50 ans, c'est que tu as réussi ta vie.
Il n'y a pas 50 ans, attendre pour avoir un Solex encore.
Trêve de plaisanterie, les amis. André, cette histoire, elle pourrait sembler anecdotique à l'historien que tu es. Un jeune qui veut faire du bruit, de la techno avec son camion. Après tout, tous ces gens-là, on sait bien que c'est des drogués, des voyous qui font du bruit le soir au fond des bois, qui veulent pas travailler et qui sont pas sérieux en plus, parce qu'ils sont même pas encartés dans un syndicat.
Hier, on a parlé de ces autoroutes de la drogue dont la porte d'entrée en Europe est bien souvent aux Pays-Bas. Aujourd'hui, les victimes.
TF1, 18 octobre 1994.
Les plus vulnérables, eh bien, c'est sans doute nos enfants. Et un phénomène inquiétant est en train de se développer. Des soirées musicales qui se développent notamment dans la région parisienne. Et derrière ces soirées, il y a un véritable marché de la drogue. Ces soirées s'appellent les soirées rêves.
Psychiatrique partie, rendez-vous à partir de 23h30 à la gare RER de Massy-Balaiseau.
Un répondeur en guise d'informateur et tous les initiés convergent vers ce lieu tenu secret jusqu'au dernier moment.
Ouais, ta question est un peu provocatrice. Puis c'est pas un fait isolé, hein. Il y a quand même Notre-Dame-des-Landes, Sivins, etc. Il y a quand même eu des... Et plus les brutalités incroyables qui ont été faites pendant les manifestations sur la loi El Khomri, là. Moi j'étais quand même à Tours, une manifestation qui arrivait au pont de fil là-bas, et quasiment sans avertissement, les policiers ont tiré des grenades lacrymogènes dans la foule. J'étais complètement suffoqué, il y a des jeunes qui m'ont tiré de ça, je ne savais plus où j'étais, je ne pouvais plus respirer, enfin, les gens se sont trouvés mal, il y avait des gens avec des gosses dans des landaus, etc. Enfin, il y a eu pendant ces manifestations, à Paris comme en province, des brutalités sans précédent dans les 10-15 dernières années. C'est-à-dire qu'on voit monter un climat de répression qui se planque derrière les lois contre les terroristes, tu sais, les terroristes qui font si peur aux gens, etc. Et ça a bon dos, en fait, pour établir un climat de répression généralisé et pour essayer d'interdire toute forme de manifestation. Alors, dans une situation paradoxale où, bien sûr, les gouvernements qui se succèdent disent « Nous sommes dans une démocratie, on a le droit d'expression, etc. » par le vote, par... Précisons au passage, hein, qu'en 2005, les gens avaient voté contre leur Europe capitaliste et que c'est quand même passé. Hein. Ça veut dire que les voies légales d'expression du peuple sont piétinées. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une recrudescence de la répression aujourd'hui. C'est parce que, d'abord, l'opinion, d'une manière générale, et pas seulement les jeunes adeptes de la techno, etc., manifestent de plus en plus bruyamment et de plus en plus fortement contre le système. N'oubliez pas les paysans. Les producteurs de lait, les producteurs de vaches, etc., enfin les gens qui travaillent, etc., plus les milliers d'ouvriers qui sont virés par des mesures boursières, etc., qu'on ferme des usines de 300, 400, 600, 2000 ouvriers sont mis à la porte, c'est brutal ça, hein, et donc il y a une réaction forcément. au niveau de la brutalité de ces mesures économiques, etc.
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Vous plaisantez, j'espère? Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? Faut arrêter.
Pour vous, la fin justifie les moyens.
Salaud.
La réponse du gouvernement actuel, c'est la répression. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'interdire en privant de moyens, en privant de liberté, en pourchassant ces jeunes qui ne sont pas d'accord avec le système. Il s'agit d'un mouvement de répression, qu'ils disent ou non son nom, on s'en fout. Les flics sont là avec des grenades, ils tirent tendu sur des manifestants. Que penser de ça? Sans compter qu'il y a des provocations policières, on revient au bon vieux système que j'ai connu moi en mai 68, où tu as des flics déguisés en jeunes, tu vois ce que je veux dire, en jeans, etc., et qui se mêlent aux manifestations, qui font des dégradations. Il suffit ensuite après de voter une loi scélérate en disant vous êtes responsable, c'est vous qui avez organisé les manifestations, vous plongez. Je suis, moi, à titre personnel, totalement solidaire de ces mouvements de jeunes, c'est eux qui ont raison.
Alors on l'a signalé l'an dernier, pendant la lutte contre la loi dite El Khomri, il s'est passé au niveau policier et répressif des choses tout à fait extraordinaires. La police qui arrive chez des syndicalistes le matin pour interdire à ces mêmes syndicalistes de manifester l'après-midi. On a vu aussi des interdictions de manifestations à Paris, me semble-t-il, enfin, des choses tout à fait inédites, qui m'amenaient d'ailleurs à dire « Ah, c'est vraiment affreux que Sarkozy ait été à nouveau élu en 2012, parce que si on avait eu Hollande, on aurait eu une police de gauche. »
Medef partout, justice nulle part. Vivement que le PS n'est bientôt plus que le Medef à trahir.
Et on a oublié aussi d'évoquer ces types qui ont arraché la chemise d'un directeur des ressources humaines de Air France qui avait présidé au licenciement de je ne sais plus combien de personnes, etc. Le type a eu sa chemise arrachée. Bon, c'est pas agréable, c'est humiliant, mais enfin, ça fait partie aussi de la colère des gens, etc. Comme ça. Ils passent en tribunal correctionnel, ils sont condamnés à des peines de prison ferme. Mais il y a 20 ans ou 30 ans, c'était impensable un truc comme ça. Impensable! On doit aussi à nos amis socialistes, tu mets tout ça entre guillemets, de tels éléments de répression. Et c'est vrai qu'une partie de la magistrature est d'accord avec ça. Ils marchent à fond là-dedans. Les jeunes sont à réprimer. Il faut rétablir l'ordre, etc. C'est une justice couchée, une justice aux ordres qu'on a.
Daniel.
Ils défendent l'état de droit, comme ils disent, et cet état de droit est quand même un peu un état de droite.
Dans un pays qui est un état de droite, dans un pays qui est un état de droite.
La voix off.
Et une polémique.
Faites attention.
Il s'agit d'un trucage.
Ce que je dis est choquant, caricatural, et donc mérite d'être caricaturé.
Des pauvres, ce n'est pas bien. Des pauvres, c'est quand même pas normal.
Les pauvres.
Je vous nique.
Les pauvres.
Attends, ça suffit.
Des pauvres,
ça peut vous tomber dessus.
Des pauvres,
c'est un comble.
Les pauvres,
je vous nique.
Les pauvres,
attends, ça suffit.
Des pauvres,
c'est la merde.
Des pauvres,
ça ne sert à rien.
Les pauvres,
je vous nique.
Les pauvres.
Attends, ça suffit.
Les pauvres.
Ça exaspère nombre de nos concitoyens.
Les pauvres.
Attends, ça suffit. Je propose qu'on supprime les pauvres par la discrimination positive. C'est la loi. Et ça sera la loi du plus fort. C'est la loi. Les pauvres, ils n'ont aucune chance de s'en sortir.
La loi.
Oh. Et une polémique.
Circuler, il n'y a rien à voir.
Autour de ce même micro, on a eu l'occasion, les années précédentes, quand c'était encore Talonnette premier, enfin Sarkozy, au pouvoir, il était beaucoup question de ces lois LOPSI, hein, loi d'observation et de programmation sur la sécurité intérieure. Il y en a eu deux moutures, qui interdisaient d'ailleurs notamment les habitats précaires, hein, les maisons en bois, les trucs comme ça.
Mamat. On a refait une d'ailleurs, une loi contre les camions. Il vient d'en pondre une là, qui interdit tout simplement les camions aménagés par nos soins. Maintenant, il faudra faire carrosser les véhicules, enfin ça va devenir un fric dingue pour pouvoir faire un camion aménagé. Donc tout notre mode de vie alternatif, il est remis en cause. Et ça, c'est encore une fois, c'est le gouvernement socialiste qui le fait.
Mais là, je crois que tu interprètes mal, c'est ils sont soucieux de ton confort.
Il faudrait les remercier.
Surtout devant des camping-cars très très chers. Parce que ça arrive.
Muriel.
Ça va concerner tous les gens comme Mamat, les saisonniers qui vivent en camtar et tout. Mais ça concerne aussi énormément de retraités qui n'ont plus les moyens de vivre en appart et qui essayent de se trouver un petit bout de camion ou d'utilitaire et qu'ils aménagent comme ils peuvent, sinon ils seront dans la rue. Et c'est ceux-là aussi qu'on vise.
Continuité dans tout ça, hein, de Sarkozy à Hollande jusqu'à ce qui nous attend, finalement il y a une logique hein, qui avance.
À part une montée de la répression, on n'a pas eu de changement de politique. Hein. C'est de pire en pire. Donc le prochain, ça va être qui ? Ça va être. De toute façon, c'est pareil, ça va encore continuer dans la même vague, dans la même lancée, et qu'on va se faire de plus en plus réprimer. Mais qui se rassure, hein, ils ont beau nous réprimer, ils ont beau nous attaquer. Ils disent, moi, par exemple, je suis interdit d'organisation d'événements, je suis interdit de sonorisation, je suis interdit de vente d'alcool, de vente de bouffe et de vente de café sur tout le territoire français encore pendant 2 ans. Bon, là, je vais avoir le procès, on va voir ce qu'ils vont m'interdire encore une fois, mais ça m'empêchera pas de continuer. Ils ont beau faire toute leur répression, mettre tous les moyens en œuvre, on s'arrêtera pas.
Moi, je veux pas faire de parallèle scabreux, mais je trouve qu'il y a un petit côté essayer de mettre les Indiens qui bougent dans des réserves, quoi, hein, les sédentariser, comme ça au moins on sait où vous êtes. Quoi.
C'est exactement ça. Et c'est surtout, tout ce qui sort la tête du moule, c'est la rentrée dedans. C'est couper toutes les initiatives alternatives.
Tous ceux, effectivement, qui semblent être hors de cette société-là, etc., ça peut être des pauvres, des prolétaires, tout le monde est dans le même tas, et ce sont des lois scélérates. Hein, on peut les comparer aux lois des années 1890, hein, où il y a eu des attentats anarchistes qui ont fait quelques victimes, mais qui ont servi en fait à réprimer les manifestations du mouvement ouvrier. Et aujourd'hui, on peut constater que les gouvernements successifs dont parlait Mamat sont de moins en moins légitimes. En fin de compte, ces gens-là sont soutenus dans le meilleur des cas par 20% de la population. Le reste de la population souvent les vomit. Il n'est pas sûr d'ailleurs que ce que tu as dit tout à l'heure était vrai, c'est-à-dire que toute la population vous désapprouve, c'est pas vrai, il y a toute une partie de la population qui vous comprend, enfin, qui est solidaire et qui est plutôt de votre côté que du côté des flics. Hein. D'ailleurs, ça les inquiète, il y a une haine des flics hein, qui vient de la façon dont on utilise les forces de police, etc. Une haine des flics qui est de très mauvais augure pour le reste de le truc, parce que hein, si on va vers une guerre civile, quelle est l'atmosphère ? Quelle violence, hein, vous avez vu le groupe là, de ces jeunes autonomes qui sont passés en procès parce qu'ils avaient soi-disant saboté des lignes TGV.
Tarnac.
Ils ont fini par abandonner les peines, mais enfin c'est incroyable la disproportion de la répression judiciaire, policière contre ces jeunes gens et du danger réel qu'ils représentaient pour la société, le gouvernement, les institutions, etc. Enfin, c'est dingue, quoi. On a utilisé un marteau pour écraser une puce, en quelque sorte. Hein. En fait, c'est vrai qu'ils supportent mal tout mouvement alternatif, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas rentrer dans leur moule social, c'est-à-dire de leur société, bien sûr, qui est une société idéale, qui est une société égalitaire, une société démocratique, etc. Elle ne l'est pas. Seulement, ces mouvements sont un désaveu. Et c'est pour ça qu'on veut les supprimer, les annihiler complètement. On ne veut pas de contre-modèle en quelque sorte. Donc il s'agit de mettre ces gens-là en tôle. C'est épouvantable. On a un gouvernement qui est ignoble, ignoble, haïssable.
Bah, l'état d'urgence, tout ça, on est dans la répression de masse. Concrètement, le 19e, c'était ça aussi. Hein. On fait tirer sur les mouvements de grève. C'est normal qu'il y ait des parallèles. Hein.
Dans la grande ville de Paris,
dans la grande ville de Paris,
il y a des bourgeois bien nourris,
il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux, ceux-là ont les dents longues,
vive le son, vive le son.
Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion.
Il y a les magistrats vendus,
il y a les magistrats vendus.
Il y a les financiers ventrus,
il y a les financiers ventrus.
Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a
de la dynamite,
vive le son, vive le son.
Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion.
Les lois scélérates dont tu parlais tout à l'heure, hein, suite aux attentats anarchistes.
Oui, 1892, je crois, il y a eu ce que la gauche a appelé les lois scélérates. Scélérates parce qu'elles se servaient de quelques attentats anarchistes pour réprimer l'ensemble des manifestations ouvrières. N'oubliez pas quand même que dans les années 1900, le ministre de l'Intérieur de l'époque était Clémenceau. Il a fait tirer, c'était l'armée à l'époque, on n'avait pas de force de police spéciale. Donc c'est l'armée qui tirait avec des fusils de guerre contre les manifestants. Il y a eu, je ne sais plus si c'est à Fourmies ou ailleurs, il y a eu des morts, beaucoup de morts. Ah, ils tiraient, les balles pouvaient tuer 2-3 personnes à la fois. Il y a eu des enfants morts dans des cafés, etc. Enfin, il y a eu une répression terrible contre le mouvement. C'était des mouvements syndicaux de la CGT qui, à l'époque, manifestaient pour les 3-8. Hein, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, etc. Et ça tirait à balles réelles. Il y a eu des grands mouvements de manifestation. À l'époque, il y avait des millions de gens syndiqués à la CGT, hein, qui était le seul syndicat. Et des mouvements particuliers de travailleurs des chantiers, hein, le chantier du métro, etc. Il y avait des mouvements sociaux de très grande ampleur, des mineurs aussi, et ça tirait à balles réelles. Et c'était encore un gouvernement de gauche, hein. Je rappelle que Clémenceau, c'était les radicaux. Hein. Je dis ça au passage.
Hein. Les radicaux, les radis roses, hein, moitié blanc, moitié rose, mais toujours à côté de l'assiette au beurre.
C'est ça. Bah, pour les socialistes, aujourd'hui, c'est la même chose. Ça s'appelle le fromage, maintenant, ça s'appelle plus l'assiette au beurre. Enfin, ces gens sont toujours bien placés. Hein, et ce sont des gens vertueux. C'est ça qui est terrible avec les socialos. C'est pire qu'avec la droite, parce que ces gens font la même chose que la droite, mais avec bonne conscience, comme ce sont des gens de gauche. Ils savent ce qui est bon pour les gens. C'est vraiment insupportable, insupportable.
Nous n'avons pas vocation à accueillir
la voix off.
C'est une polémique.
C'est un montage.
Bidon.
Bonsoir, monsieur le Premier ministre.
Bonsoir.
Bonsoir. Vos amis disent de vous, c'est sans doute une qualité, que vous êtes un social traître.
Oui, heureusement.
Vous aviez même dit que le mot socialiste ne voulait plus rien dire.
Oui, la gauche, c'est de la préhistoire. Et puis, vous savez, moi je suis un homme de gauche profondément de droite. Mm-hmm. C'est merveilleux.
Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté de trahir la gauche.
Nous n'avons pas d'autre choix.
Manifester dans l'espace public pour exprimer des revendications. Là, ça se durcit quand même depuis 30 ans. Enfin, moi, j'ai l'impression que la société d'aujourd'hui est infiniment plus dure que celle du début des années 80, par exemple, au niveau répression policière.
Oui.
Un exemple mal écousé qui. Un exemple mal écousé qui.
C'était cette nuit dans le quartier latin. Un jeune homme de 22 ans est violemment frappé par des policiers, membre de la brigade mobile. Il décède d'un arrêt cardiaque. Le jeune Malik Ousekine était dialysé.
Exclut effectivement les grands mouvements pendant la guerre froide, là de 1947, Jules Mogg dont tu as parlé, et également les manifestations contre le colonialisme pendant la guerre d'Algérie. Ces manifestations étaient extrêmement violentes aussi. Hein. Les flics à l'époque avaient des bâtons et des pèlerines plombées, etc. Et mon père s'est fait casser la gueule plusieurs fois, hein, de très nombreuses fois dans des manifestations contre la guerre d'Algérie. Hein. N'oublie pas qu'il y a quand même eu 8 morts au métro Charonne en 1962. 8 militants communistes, 3 femmes je crois, un jeune de 16 ans, etc., ont été massacrés par la police de Papon, parce que c'était Papon, l'ancien pétainiste qui était chef de la police à Paris à l'époque. Et si on parle également de la manifestation d'octobre 61...
17 octobre 61, un an avant, hein, où là, il se dit que des dizaines de manifestants algériens...
Des centaines. Beaucoup ont été balancés à la Seine. J'étais gamin à cette époque-là. Et j'étais ami avec le fils du gendarme d'un petit bled au bord de la Seine, près de l'estuaire. Il ramassait des cadavres. Hein. Il y avait des cadavres d'Algériens, non identifiés.
Descendu la Seine de Paris.
La Seine jusqu'à l'estuaire. et qui ont ramassé au bord de la Seine. Donc ça a été une répression épouvantable. On sait que des Algériens ont été assassinés dans la cour de la préfecture de police de Paris. Hein, la répression policière, on sait un peu ce que c'est aussi. Hein.
Écoutez, ça y est, ça change maintenant. Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache.
En mai 68, c'est un peu différent. D'abord, les manifestants ont été extrêmement violents en 68. Et là, on peut dire que la modération était du côté de la préfecture de police. Parmi les manifestants, il y avait beaucoup de jeunes de la bourgeoisie parisienne et qu'il fallait quand même éviter de tuer des enfants de bonnes familles parisiennes, etc. Dans ces manifestations, donc, le préfet qui s'appelait Grimaud, je crois, à l'époque, a été plutôt modéré compte tenu de la violence des manifestants qui brûlaient des bus, tronçonnaient des arbres, etc. Et se sont livrés à des violences importantes, beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi que c'est plus grave ?
À partir de quand ça commence à se retendre en France ? C'est quand la droite gagne une législative de 86, donc ça marque un tournant. Pasqua, Pandreau, Malik Houssekine, les voltigeurs, c'est là que ça se tend ou ça avait déjà commencé avant ?
Tout dépend de ce que le pouvoir attend d'une manifestation ou craint d'une manifestation. Si le pouvoir craint que la répression soulève contre lui l'opinion publique, il va être modéré en quelque sorte. Si au contraire, le pouvoir veut exploiter la violence, comme il l'a fait en partie en 68 aussi, hein, parce que les images des manifestations ont effrayé une partie de l'opinion publique, hein, frileuse, modérée, etc. En juin 68, la majorité, très large majorité de la population, a voté conservateur. Aujourd'hui, je pense que le pouvoir utilise la répression qu'il mène contre ces manifestations pour essayer de se faire de la pub.
Regardez, nous aussi, on sait rouler des muscles quand il faut.
On sait rétablir l'ordre. Braves citoyens un peu peureux, vous voyez, nous rétablissons l'ordre, nous empêchons le désordre, car le désordre, c'est très mal, et puis ça permet aux terroristes de se développer, etc. Et je crois que le gouvernement actuel mise sur la peur. La répression fait partie d'une stratégie aussi d'exploitation de la peur de l'opinion publique. C'est en même temps une façon de dissuader les mouvements de manifester contre la politique gouvernementale qui est désapprouvée par une majorité de gens. Et en même temps, c'est une façon de dire à l'électorat modéré, vous voyez, hein, nous rétablissons l'ordre, ha ha ha. C'est souvent le cas des socialistes. Ils ne veulent pas qu'on leur reproche de favoriser le désordre. Favoriser le patronat, ça ne les dérange pas. Mais favoriser le désordre, non, non. Vous voyez, nous sommes les meilleurs ministres de l'Intérieur, d'ailleurs, du temps de Sarkozy aussi, ça avait été ça. Sarkozy, avant d'être président de la République, a été ministre de l'Intérieur. Et toute une partie de sa popularité, il l'a cultivée sur la dureté, enfin, du moins annoncée, de la répression, des forces de l'ordre, etc.
Parce qu'à le final, il a supprimé des milliers de postes de fonctionnaires de police.
Oui, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la façon dont il apparaît à la télévision. Oh, on va nettoyer la racaille avec un lance-flamme ou un Karcher.
On va vous débarrasser de cette racaille.
Rouler les mécaniques, etc. Ça fait partie d'une stratégie. Et moins ces gens-là sont légitimes, moins ils sont soutenus par l'opinion, plus ils s'enfoncent dans cette stratégie de l'escalade de la violence. Qui les arrange ?
La voix
off et une polémique.
Il s'agit d'un trucage.
C'est une plaisanterie. Mesdames et messieurs, on a peur ? Dans un pays qui est un état policier ? Oui. Au fond, la principale cause de la violence, mesdames et messieurs, c'est la police. Les forces de police et de gendarmerie craignent totalement les policiers sauvages font régner la terreur devant des immeubles d'habitation. Quand on est policier, on a le sens de l'impunité, sans tabou. Dans un pays qui est un état de droite, je veux dire que les policiers qui font l'objet d'une décision de justice n'ont fait que leur violence aggravée. Comme ça, paf, nous allons réévaluer les motifs pouvant donner lieu à la déchéance de la nationalité française contre les policiers et châtier les parents des policiers de la BAC qui, de toute manière, ne vont plus à l'école. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de forces de l'ordre. Grands ou petits, les policiers sauvages doivent être conduits dans leur pays. Tous. Qui m'aurait pris au sérieux ?
La voix.
Off. Et une polémique.
C'est un montage.
Mais je préfère l'excès de caricature que l'insuffisance de caricature.
Finalement, pour en revenir à cette affaire qui nous occupe aujourd'hui, hein, on le rappelle, avec le 27 avril, un rendez-vous devant le tribunal de Tours pour l'affaire de Mamat et de son camion. Finalement, si j'entends bien ce que tu dis, ce qui arrive là n'est pas du tout détaché du contexte. Et puis, cette stratégie, c'est une stratégie de lâche, parce qu'on pourrait se dire, après tout, s'en prendre à Mamat, c'est bien facile. Derrière lui, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti politique. On se dit, ouais, c'est juste un tougher dans son camion. Il est isolé, on va lui cogner dessus parce qu'il est détaché du troupeau.
Bien sûr, regarde ce qui s'est passé en Bretagne avec les bonnets rouges. Ils ont bousillé des portiques servant à taxer les camions pour la pollution, etc., qui valaient des centaines de millions. Le gouvernement a cédé à ces gens-là. Ils n'ont pas envoyé les troupes, ils n'ont pas fusillé les manifestants. Ils ont cédé d'abord parce qu'une bonne partie de l'opinion en Bretagne était du côté des manifestants. À tort ou à raison, ça je n'en juge pas, mais c'est vrai que c'est lâche comme stratégie. C'est plus facile de taper sur les petits, enfin.
Si c'est intéressant de savoir qui était.
Les rouges, il y avait bien sûr des gens qui votent à droite. Hein. Ça me rappelle une anecdote. J'avais une cousine qui était mariée à un CRS, un officier de CRS, Fernand. Hein, je tais les noms de façon à ne pas avoir d'histoire. Et ce type-là, en 1964, a été envoyé avec sa section de CRS à Saint-Brieuc, violente manifestation de producteurs d'artichauts et de choux-fleurs, très très violente manifestation, avec des tracteurs qui ont enfoncé les grilles de la sous-préfecture. Et les types étaient là avec des fourches et ont enfourché quelques CRS, blessés gravement à coups de fourche. Ils ont balancé d'énormes pavés de granit, etc. D'ailleurs, le mari de ma cousine a pris un de ces magnifiques pavés de granit dans la gueule et il a mangé de la purée avec une paille pendant 6 mois, quoi, hein. Alors, je me souviens qu'au repas de famille, mon père disait « Bien fait pour ta gueule, Fernand. Si ça avait été des ouvriers, vous auriez tiré. Hein. Mais comme c'était des paysans qui votaient à droite, ben oui, c'était des paysans qui votaient à droite, les paysans bretons. Il ne s'agissait pas de les disperser à grands coups de matraque. Ces pauvres CRS ont payé pour la lâcheté politique des gens qui nous gouvernent. »
Comme on dit dans les déchets, il y a deux poids, deux mesures. Non mais c'est vrai que moi je suis souvent stupéfait quand je vois des manifestations de paysans. À Rennes aussi, ils n'ont pas foutu le feu à un truc.
Fumier, voilà. Ils ont déversé du fumier.
Alors là, par contre, c'est assez bizarre, la justice peut se montrer éventuellement assez clémente. Je retourne vers Mamat, tu as plein de choses à gérer en ce moment, mais est-ce que tu as malgré tout le temps de penser que tu portes aussi une casquette de bouc émissaire dans cette histoire? C'est-à-dire que c'est facile de te taper sur la gueule finalement, enfin, du moins croit-il.
Premièrement, oui, c'est une casquette de bouc émissaire, mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi par rapport au mouvement des Free Parties, c'est pas un moyen de taper dessus. Parce qu'on a été obligé de s'organiser, parce que c'était un mouvement clandestin, du coup, qui est très durement réprimé par les lois. Il y a eu énormément de procès qu'on en a toujours. On a monté, par exemple, un fonds d'aide juridique qui soutient l'intégralité des sons de système en France pour tous les procès. Donc tous les sons de système étrangers qui viennent poser chez nous ou n'importe qui sont soutenus par notre fonds d'aide qu'on a monté, qui marche que par le don et quelques subventions, parce qu'on a été obligé de prendre des avocats salariés qui sont salariés pour nous maintenant. Et on s'engage à payer au moins l'intégralité des frais de justice pour l'intégralité des sons de système en France. Maintenant, on s'est rendu compte que quand on faisait une teuf dans l'égalité à 500 personnes, on se faisait durement réprimer, avec saisie du matériel, des charges de flics et tout ce que vous voulez. Par contre, maintenant, quand ils vont trop loin, on leur ramène 15 000 personnes ou 30 000 personnes sur un site et on les fait taire. On a même fait excuser publiquement le préfet de Bretagne par rapport à ça, où il avait fait charger plusieurs soirées de façon complètement lâche en plus, parce qu'il les fait arriver par derrière, ils courent, ils prennent du matos, ils balancent 3 grenades pour se barrer en courant. Ils n'ont même pas le courage de l'affronter. Et du coup, ils saisissent, donc on leur a annoncé un Technival en Bretagne. Le préfet nous avait traité de cons irresponsables, drogués et alcooliques. 3 jours avant le Technival, il s'excusait publiquement en disant que ses propos avaient dépassé sa pensée et qu'il était désolé et qu'il fallait absolument appeler au calme. Bon, il y a un moment, c'est dommage de devoir faire un rapport de force et de se dire « Écoute, on vient à 15 000, on vient de retourner à ta région pour que tu comprennes que si tu nous réprimes, on va être solidaire. » Là, on se prépare à participer au Technival du 1er mai, par exemple, revendicatif, là, en illégal en France. Bon, on va lui ramener comme l'année dernière entre 35 000 et 50 000 personnes. On va avoir le rapport de force avec nous. Mais c'est dommage de devoir entrer dans cette logique-là encore aujourd'hui. Et que l'État ne veut rien céder, ne veut rien négocier. Il nous fait toujours des belles paroles, ce qu'on est souvent appelé à monter dans les ministères, donc à Beauvau et compagnie. On fait des réunions ministérielles. Et c'est quand même dommage qu'à chaque fois, ils ont des belles paroles dès qu'on fait un rapport de force et que derrière, ils essayent de nous la mettre en douce. Après, qu'ils se rassurent, ils pourront nous taper, comme je disais. Concrètement, je suis interdit d'organisation de Free Party, ça ne m'empêche pas d'en faire, ils en feraient toujours. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je continuerai.
Je suis en train de peut-être d'esquisser une piste là, de réflexion pour de futurs gouvernements, mais est-ce qu'une bonne manière de vous éteindre, vous, le mouvement des Free Party, ce serait finalement de vous permettre d'accéder à des lieux? Tenez, vous avez le droit, on vous met là. Ils ont fait le coup d'ailleurs sur un aérodrome militaire désaffecté. Est-ce que ce qui fait que c'est un mouvement actif, c'est justement qu'il est plongé dans l'illégalité?
En soi, qu'il nous file des terrains, bon bah tant mieux. Parce que par exemple, un problème se pose quand on fait danser 35 000 personnes, c'est les pompiers et les hôpitaux qu'il faudrait mettre au courant. Qu'on puisse prévoir avec l'État, dire bon bah là écoute, je fais une soirée à 35 000 personnes, Je te préviens juste pour que tu puisses mettre en place les dispositifs nécessaires. En soi, je comprendrais ça normal. Mais le problème, c'est qu'on avait l'impression de franchir le mur de Berlin. Quand on passe, on a les 300 CRS, les chiens, on est fouillé tous au corps, prise systématique des identités. Et ça, c'est hors de question. Notre mouvement, il est libre. Par exemple, il y a des mairies qui nous autorisent. Des mairies qui nous disent, bah là, vous pouvez prendre ce champ-là, il n'y a pas de problème. Si on travaille conjointement, mais on ne veut pas être pris pour des cons. Et on ne veut surtout pas être la cible des médias, la cible de l'État et dire qu'on est des terroristes ou une bande de drogués irresponsables qui dansent sur de la musique inaudible. Ça, on ne l'acceptera jamais.
Quand une forme d'expression artistique fait partie de lutte sociale, est-ce que le mouvement dit Free Party, dans lequel Mamat est partie prenante et acteur, vous fait penser à d'autres parallèles?
En mouvement culturel alternatif qui a existé, il y a eu quand même la vague hippie, par exemple, avec le rock psychédélique, il y a eu le punk.
Je crois que le mouvement le plus comparable et le plus ancien auquel on peut faire référence, effectivement, ce sont ces grands concerts folk, rock, etc., qui se passent dans des plaines où se réunissent des milliers de gens pour écouter leurs chanteurs, leur musique préférée. Et en même temps, c'est un contre-modèle social, puisque le mouvement hippie, le mouvement beatnik sont des mouvements de remise en cause de la société de consommation, de la société occidentale. Et ce sont des mouvements qui se veulent radicaux, c'est-à-dire un changement complet. Et ce sont des jeunes. Des mouvements concernant la jeunesse, et spécifiquement la jeunesse, pour l'essentiel, parce que je pense que vos mouvements, c'est essentiellement des jeunes, c'est récent. Ça date effectivement du tournant des années 60-70. C'est un mouvement concernant les jeunes et qui s'adresse aux jeunes, des jeunes qui se séparent du reste de la population. Ce n'est pas intergénérationnel, c'est une génération à la fois. Ça date de l'époque donc de mai 68, quoi. Enfin, bon, et tous ces mouvements en Europe et en Amérique du Nord qui sont nés à cette époque-là, et qui sont l'expression de la colère, de la revendication, de la jeunesse.
La différence qu'il y a avec le mouvement justement entre les hippies et le mouvement des free parties, c'est qu'on a eu un moyen qui s'est appelé l'Internet, et qui a répandu ce mouvement mondialement. Bon, il part concrètement, c'est pour répondre à la crise aux États-Unis, qu'il est parti en début des années 80. Il part Détroit, Chicago, des quartiers noirs, et concrètement, ils font la fête dans la rue et dans les usines désaffectées parce qu'il n'y a plus de boulot, ils se font chier et ils ont envie d'un peu de gaieté dans leur vie. Ça part de là. L'Angleterre, ce mouvement punk qui se tourne vers la techno et que Thatcher va bannir. En prétextant que c'est une secte et les sectes sont interdites en Angleterre et donc du coup, elle va expulser tous les sons de système d'Angleterre. Ou alors, vont devoir arrêter. De là, le mouvement s'est répandu mondialement. Il y a un mouvement qui s'est créé en Inde, des mouvements qui sont créés du coup en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe. Et que ce mouvement justement autogestionnaire et libertaire continue d'exister, de résister depuis maintenant justement en France depuis 93, depuis 24 ans du coup. Depuis 24 ans il est durement réprimé et attaqué, mais plus il attaque, plus on grossit. Et ça c'est un fait.
Muriel.
Sur le fait d'autoriser ou pas, de laisser un terrain ou pas. Parce qu'il y a un parallèle aussi avec le mouvement hippie dont j'étais. Le mouvement hippie, alors ouais, les mecs, ils avaient des cheveux longs, les nanas aussi, on était habillés tous très rigolos. Mais on faisait des manifestations contre la guerre au Vietnam, contre le mur de Berlin, contre le nucléaire, et il y a eu des morts, parce que j'oublierai jamais Vital Michelon, un peu à moi. Là, par rapport au mouvement de la Free Party, c'est pareil, il n'y a pas que la musique, il y a tout un mode de vie errant. L'État, n'importe lequel, n'a jamais aimé des gens qui refusent de s'installer dans une maison et de payer un loyer. L'État ne supportera jamais des gens qui vivent de solidarité, de troc. On essaye de bannir le plus possible un système monétaire. Ils pourront essayer de les cantonner comme des Sioux, tu parlais d'Indiens tout à l'heure, dire bah tiens, vous irez faire mumus dans tel terrain.
Mais votre ça réglera... réserve, dans votre réserve.
Voilà, dans votre réserve, mais alors faut pas leur jeter des cacahuètes, ils vous renverront des pavés. Ça réglera rien à tout le reste, à toutes les autres revendications. Moi je fais partie des mouvements de sans-papiers. Dans l'Afrique, c'est l'ouverture des frontières. L'État, il l'acceptera jamais. Donc non, un terrain par-ci, un terrain par-là. Le cœur du problème, pour moi, il n'est pas là. C'est un mode de vie. Et c'est ça que n'importe qui, gauche, droite, ce que tu veux, ils refuseront.
Prochaine étape donc pour cette histoire, on le redit à nouveau, ce sera devant le tribunal de Tours à 8h30 ce jeudi 27 avril. Viens qui veut, hein, ça se trouve il y aura peut-être de la musique.
Même. Bah le truc qu'on a c'est qu'on a...
Peut-être pas trop provocation.
Alors c'est pas la provocation qui nous dérange, parce que c'est notre genre de provoquer aussi, et de choquer, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait avancer le débat. Mais le problème c'est qu'on a un technival le lendemain et que tout, quasiment tout le matos qu'on a va être chargé dans les camions pour pouvoir y aller. Et donc du coup on ne pense pas pouvoir mettre des enceintes. Mais si jamais il nous en reste quelques-unes, bien entendu on les mettra.
Voilà les amis, c'est sur ce rendez-vous avec Mamat que se termine cette émission que vous pouvez réécouter sur notre site polemixetlavoixoff.com. Merci à Mamat, Muriel, Daniel et André et on se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Salut.
Terminé. Now is the
time. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.